L'émission de littérature sur Radio Campus Orléans avec en direct par téléphone Juliette Volclair. Nous allons parler du son comme arme, les usages policiers et militaires du son, livre paru aux éditions La Découverte. Bonsoir Juliette Volclair.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous par téléphone. Ma première question, c'est comment vous est venue l'idée de ce sujet ?
Déjà, j'ai une pratique de radio, donc je me suis intéressée au son, et particulièrement de radio associative, puisque j'étais sur Fréquence Paris Pluriel à Paris, et là, actuellement, mon émission est diffusée sur Radio Galère à Marseille. Et comme vous le savez certainement, en tant que radioteur ou que qu'auditeur de radio associative, on est amené souvent à avoir une activité assez polyvalente et donc à s'intéresser à toute la chaîne du son, quoi, à la fois la technique et puis la réalisation des émissions elles-mêmes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au son de cette manière-là et c'était à une époque, c'est-à-dire au milieu des années 2000, à laquelle sont apparus divers articles entre lesquels aucun lien n'était fait. Des articles d'une part sur l'usage de la musique comme moyen de torture dans les prisons secrètes de la CIA et notamment à Guantanamo, des articles sur l'usage de ce que les médias ont nommé un répulsif anti-jeune, le mosquito, qui utilisait le son, des sons purs de très haute fréquence, c'est-à-dire très très aigus, enfin si aigus qu'on les entend à peine, en tout cas que seules les jeunes oreilles peuvent encore entendre, les oreilles de moins de 25 ans, donc c'est un dispositif qui vise à nettoyer une zone des oreilles les plus jeunes. Et puis des articles sur l'usage dans les manifestations de ce qui a été nommé des canons à son, et qui sont en fait des haut-parleurs très directionnels, qui sont fabriqués par la société LRAD. Et la conjonction de ces trois choses, en fait, m'a paru un peu étonnante, et je trouvais qu'il y avait matière à les creuser, sur ce qui faisait qu'il y avait en ce moment, apparemment, l'émergence d'un usage répressif de plus en plus systématique du son.
Alors, votre livre commence par des petites, on va dire, un résumé de données techniques. Les oreilles n'ont pas de paupières, aspect technique de l'audition. Et juste après, vous rentrez dans le cœur du sujet, le rayon de la mort infrason et basse fréquence. Et là, vous parlez de quelque chose d'assez étonnant de Vladimir Gavro et de ce mythe Gavro. Donc, le professeur Vladimir Gavro, c'est un acousticien français. C'est quoi sa trouvaille ?
Alors, Vladimir Gavro, il travaillait au CNRS de Marseille. Et il s'est rendu compte, en fait, il travaillait dans un laboratoire, il est acousticien, il travaillait dans un laboratoire dans lequel les gens se sont mis, à un moment, à avoir des malaises assez inexplicables, les cheveux qui se hérissent sur la nuque, sensation un peu de nausée éventuellement, et puis une sorte d'angoisse un petit peu diffuse. Et il en a cherché la cause avec ses collègues, et ils se sont rendu compte, en fait, qu'il s'agissait d'un ventilateur qui était encastré en fait dans le bâtiment et qui était défectueux et qui du coup en tournant émettait une fréquence, donc quand je vais utiliser le terme de fréquence ça signifie un son quoi, une fréquence très basse, et les fréquences très basses c'est ce qu'on appelle des infrasons, c'est-à-dire les sons en dessous de 20 Hz qui sont tellement graves en fait que notre audition humaine ne les perçoit pas. L'oreille ne les perçoit pas, du moins, mais le corps peut les percevoir de différentes manières. Et du coup, Gavro a été en fait émerveillé par cette trouvaille. Il a arrêté toute sa recherche en cours et puis il s'est dit « je vais créer des armes qui utilisent des infrasons ». Et il s'y est consacré pendant un certain nombre d'années. Il a créé des orgues à infrasons, il a créé des sifflets de police qui faisaient 10 fois la taille d'un sifflet classique de police qui utilisait des infrasons. Il a essayé tout un tas de choses. Il y a une énorme légende autour de lui. Il y a beaucoup de bêtises ou de fantasmes autour de ce qu'il a réellement fait. Il semblerait néanmoins, ça, il y a des collègues à lui qui sont assez d'accord pour l'avoir dit, qu'il ait réussi à faire une machine qui était suffisamment désagréable pour réussir à faire trembler la pièce où il travaillait et pour créer des sensations très déplaisantes chez les expérimentateurs. Et du coup, visiblement, on lui a dit d'interrompre ses expériences et ses recherches. Mais En fait, l'exemple de Gavroux est à la fois assez comique et très symptomatique parce que il a quand même été à la base de toute la recherche militaire sur les infrasons, puisque les militaires, et notamment aux États-Unis, ont essayé de créer effectivement des armes qui employaient les infrasons à la suite de ça.
Alors moi, ce qui m'intéressait dans ce mythe, enfin dans ce personnage, Vladimir Gavro, que je connaissais absolument pas, enfin vraiment étonnant, c'est apparemment, enfin il a vraiment une sorte de mythe autour de lui et que un de ses plus zélés promoteurs, c'était William Burroughs.
Exactement, oui. Burroughs
Incroyable.
était fasciné, en fait. Burroughs était toujours fasciné par les choses qui étaient un peu aux frontières de la magie, de la magie noire, etc. Et Gavroux l'a particulièrement intéressé. Il y a une discussion qu'il a dans un magazine musical qui s'appelle Crosdaddy, et qui dans laquelle il dit ah oui, ce serait vraiment bien si on arrivait à créer des infrasons dans les concerts pour créer des transes dans le public, etc., etc. Et y a un groupe de musique industrielle qui s'appelle Throbbing Gristle qui a réessayé de faire ça dans les années 70. Il y avait un énorme mythe autour des infrasons. On disait que soit ils créaient des défécations involontaires, ce qui n'a jamais été prouvé, je rassure tout le monde. Soit il crée des orgasmes spontanés dans le public, ce qui n'a jamais non plus été prouvé. Mais bon, il y a tout un fantasme autour des infrasons qui était d'ailleurs. Il y a une Britannique qui a fait des expériences comme ça. Elle est artiste et elle a créé en fait une installation avec un tuyau infrasonique. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, dans une de ses installations, une installation d'un de ses collègues plutôt. L'orgue infrasonique était installé et sa seule présence en fait suffisait à susciter un sentiment de malaise chez des gens qui venaient la voir, qui disaient non, il faut vraiment que vous l'arrêtiez, c'est trop pénible, etc. Alors qu'il n'avait même pas été allumé. Ce qui signifie en fait toute la puissance en fait de l'imaginaire qu'il y a autour de ces infrasons.
Mais alors, ce qui m'intéressait aussi dans, enfin dans ce cas Gavro, c'était que voilà, ouais, on est vraiment à cheval entre fiction et réalité avec lui, hein. C'est
Oui, avec lui, mais en fait, Gavroux est symptomatique de manière plus générale de la manière de concevoir les armes acoustiques par les scientifiques, par les militaires et par le grand public. C'est-à-dire qu'il y a toujours en permanence ce mélange de réalité et de fiction, cette énorme présence du fantasme dans la recherche de nouvelles armes ou dans la description des armes qui sont, enfin des prototypes qui sont réalisés. Mais ça, jusque dans les plus hauts cercles militaires, quoi. Par exemple, parmi les personnes qui ont créé toute la théorie de la non-létalité, la non-létalité, c'est-à-dire cette doctrine qui vise, qui est formulée plus précisément à partir des années 90 et qui vise en fait à développer des armes ou des stratégies militaires dont l'objectif n'est plus de tuer l'ennemi, mais de le neutraliser. Et donc, en France, par exemple, des armes non létales sont employées par la police, comme les flashballs ou les tasers. Et parmi les personnes qui ont créé cette doctrine de la non-létalité aux États-Unis, il y avait deux auteurs de science-fiction. Je précise, je suppose de mauvaise science-fiction vu les écrits qu'ils ont produits autour de la question de la non-létalité. Et un général qui était absolument fasciné par les questions un petit peu paranormales, qui lui-même se définissait comme thanatologue et qui croyait profondément au pouvoir psychotronique des armes. Et ce mélange-là, en fait, on le retrouve en permanence dans les écrits des fabricants, aussi bien après que dans ce qu'on retrouve sur Internet, par exemple, ou dans la grande presse, sur la description de certaines armes, qui en fait, enfin, la rumeur se mélange sans cesse aux faits réels, quoi, aux faits avérés. On part sans cesse, en fait, d'un fait scientifique, d'une recherche scientifique, pour arriver à une sorte de mélange entre les effets supposés de l'arme, les effets magiques de l'arme, et puis un impact réel qu'elle pourrait avoir étant donné les propriétés physiques du son.
Parce que en lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il y a eu plein de, enfin, plein d'expériences, de tentatives de mener. Vous parlez du projet MK Ultra où dedans il y avait une version de travail sur le son, d'expérimentation sur le son, par exemple. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'en fait, ça marche pas. Ça marche si pour la torture blanche. Et là, on apprend beaucoup de choses sur la torture blanche, c'est-à-dire l'usage du son de deux manières, soit par saturation de son, soit par élimination du sens du son. Et là, dans l'utilisation pour la torture, là, effectivement, ça fonctionne.
Voilà, et ça c'est un des grands dangers en fait des armes acoustiques, c'est un des grands dangers. Je vais pas moi non plus verser dans l'exagération. Disons que je pense qu'il faut vraiment prendre garde, aussi bien à ne pas se complaire en fait dans les rumeurs, les fantasmes qu'il y a autour de ces armes. Et je pense que l'autre risque, c'est de minimiser la réalité des effets de certaines armes qui de fait ont réussi, ou de certaines armes ou pratiques. C'est pour ça que j'utilise la périphrase, le son comme arme, plutôt que de parler simplement d'armes acoustiques. Parce que la torture, en l'occurrence, n'est pas une arme, elle est une pratique. Et elle est, enfin, effectivement, la torture blanche, la torture psychologique, autrement dit, c'est quelque chose qui a été mis au point de manière extrêmement consciente, extrêmement rationalisée, notamment à l'initiative de la CIA. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le projet MK Ultra, qui en fait était une sorte de projet parapluie, quoi, qui regroupait l'ensemble des projets de recherche dans le domaine des modifications du comportement, il a réuni un nombre considérable d'institutions, des universités, des laboratoires, des agences de l'État, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada et en Grande-Bretagne, qui étaient partenaires dans cette recherche. Et en ce qui concerne le son, enfin, la recherche a été faite sur la privation sensorielle. Et la privation sensorielle, c'est le fait de priver quelqu'un de l'usage de ses sens. On peut priver quelqu'un de l'usage de ses sens, aussi bien en le privant de tout stimulus auditif, visuel, olfactif ou autre, mais aussi en saturant complètement ses sens. Et en fait, la privation sensorielle a pris ces deux formes au cours de l'histoire. C'est d'abord en fait la recherche de l'absence de stimulus qui a été recherché. Notamment, il y a des étudiants qui sont portés volontaires pour faire des expériences dans des caissons d'isolation où ils n'entendaient absolument rien, où ils avaient une lumière, une obscurité totale, etc. Et en fait, aujourd'hui, les formes qu'on trouve majoritairement utilisées, c'est plutôt la saturation. C'est le cas, par exemple, à Guantanamo ou ailleurs.
Et là, à la différence de Vladimir Gavreau, qui est un acousticien, un professeur, mais bon, on n'a pas l'impression qu'il ait fait du mal à. On trouve presque des psychopathes, quoi, des docteurs Follamour. Il y a le docteur Donald Ewan Cameron, qui, avec la CIA, donc, a participé au sous-projet 68 de MK Ultra, et lui a vraiment expérimenté.
Oui, lui est un personnage assez effrayant, le docteur Cameron, qui a été après d'ailleurs lâché par de précédents collègues. Il y a même le docteur Donald Hebb qui a aussi participé au départ à ces expérimentations, qui a parlé de son imbécilité criminelle. Le docteur Cameron, en fait, était responsable de la section psychiatrique de l'université de McGill, et lui était absolument sans scrupules. Et il s'est proposé auprès de la CIA pour participer à ce programme avec beaucoup de bonne volonté. Et puis il a compris proposer un stock de cobayes tout prêt, et puis pas très exigeant, puisqu'il utilisait comme cobayes ses propres patients et même ses propres patientes, puisque c'était essentiellement des femmes qui étaient là et qui étaient amenées d'ailleurs pour des problèmes qui n'étaient pas des, enfin la majorité des femmes du moins, ce n'étaient pas des cas de maladies psychiatriques lourdes, c'était plutôt des dépressions et ce genre de choses, quoi, enfin, des dépressions légères. Et lui, il leur a appliqué un programme. Il voulait en fait restructurer le mental des gens, quoi, effacer la personnalité et la volonté d'une personne pour lui recréer une personnalité et une volonté que lui avait créée de toutes pièces. Et le résultat, ça a été totalement désastreux pour ces personnes, certaines d'entre elles lui ont intenté un procès bien des années plus tard, mais c'était des pertes de mémoire, perte totale d'autonomie, et puis elles ont mis des semaines à se remettre du traitement qu'il leur avait appliqué.
Alors, autre volet dans le projet MK Ultra, quelque chose dont vous parlez qui s'appelle les voix de Dieu, ça serait d'utiliser le son, donc là non plus pour torturer, mais pour essayer d'influencer l'ennemi, de lui faire peur, mais une peur psychologique générale.
Oui, ça c'était un. Enfin, la voix de Dieu, c'est un projet qui a complètement foiré, comme beaucoup des projets.
Parce que c'est assez amusant. Enfin, votre livre, on est à la fois entre l'amusement des projets foirés qui nous font vraiment marrer, et en même temps, la terreur utilisée par la torture et par l'usage du son comme torture.
Oui, puis même ces projets sont comiques précisément parce qu'ils n'ont pas réussi, hein, mais
oui, si
réussi, qui serait assez effrayant.
Tout à fait.
Le projet, la voix de Dieu, en fait, c'était le projet de créer du son, enfin, au moyen, je vais pas m'étendre sur la technique, mais au moyen de boules de plasma qui seraient créées dans le ciel. Donc, l'idée, en fait, très générale, c'était de réussir à créer une sorte de son extrêmement étrange qui viendrait du ciel directement, et pourquoi pas en diffusant un hologramme de la représentation de Dieu, etc., etc., quoi. Mais ça n'a pas du tout fonctionné, quoi.